RFI, grand reportage,
Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage vous emmène aujourd'hui dans l'est de l'Éthiopie. La région Somalie est la deuxième plus grande en termes de superficie. C'est une immense région dont le mode de vie traditionnel, nomade et clanique, tranche avec celui des habitants des hauts plateaux éthiopiens. Une région intégrée à l'Empire par Ménélik II à la fin du 19e siècle, mais une région jamais vraiment domptée par le pouvoir central. Avec l'arrivée de la coalition actuelle en 1991, les Somalis d'Éthiopie ont d'abord cru gagner une certaine autonomie. Mais c'est finalement un régime autoritaire qui s'est progressivement installé à Jigjiga, la capitale. Un régime local, très lié à l'armée, aux services de sécurité et aux renseignements éthiopiens, eux-mêmes dominés par les anciens maquisards de la région du Tigray, dans le nord du pays. Repousser les islamistes Chebab en Somalie voisine, c'était l'argument principal mis en avant pour justifier les restrictions des libertés et les violations à grande échelle des droits humains par l'ancien président Abdiyileh. Mais le vent politique nouveau à Addis Abeba a soufflé jusqu'à Jigjiga. L'ancien dirigeant est derrière les barreaux et désormais la population réclame justice et développement. En Éthiopie, les Somalis veulent leur part de révolution. C'est un grand reportage de Vincent Dublange et Nathalie Tissot, mis en onde par Eva Piedel.
Il faut quitter la rue principale de Jigjiga et s'engager sur une voie caoutchouteuse. Après quelques minutes, on aperçoit un mirador, puis le mur d'enceinte surmonté par des barbelés. La voiture s'arrête devant un petit portail gris quelconque. Il suffit désormais de pousser la porte pour pénétrer dans l'un des lieux les plus craints par la population de la région. Aujourd'hui, quelques policiers occupent encore les lieux. Les bâtiments, eux, sont vides. Jail Ogaden, comme tout le monde la surnomme, est officiellement fermé depuis octobre 2018. Ahmed a rassemblé quelques-uns de ses anciens co-détenus dans la cour centrale. Il nous sert de guide. On passe un porche. Sur la gauche, ce bâtiment porte le numéro 18. C'est ici qu'Ahmed était enfermé avec jusqu'à 250 à 300 autres détenus. À l'intérieur, il n'y a de fenêtre que côté droit. Quelques structures de lits superposées en métal demeurent.
Il y avait deux personnes qui dormaient en bas et deux en haut. Dans les deux cas, elles dormaient chacune dans le sens opposé à l'autre, avec les pieds de l'une au niveau de la tête de l'autre. Ces lits étaient pleins de bestioles, des punaises notamment qui nous piquaient.
En contournant ce bâtiment, nous voilà devant l'un des plus sinistres.
Nous sommes ici dans la chambre numéro 8, comme l'appelaient les prisonniers. Elle contient 8 petites pièces dans lesquelles les prisonniers étaient torturés. Il n'y a pas de fenêtre. Les gardiens obligeaient les prisonniers à rester debout pendant 14 ou 15 jours de suite, sans le droit de faire aucune activité physique, sans le droit de s'asseoir, sans le droit de s'allonger pour dormir. Et si jamais ils ne respectaient pas cette règle, on leur envoyait de l'eau gelée ou on les frappait avec des bâtons.
La torture était quotidienne à Jail Ogaden, comme le documente un rapport de Human Rights Watch de 2018. Des positions de stress, mains et pieds attachés dans le dos, la tête plongée dans une piscine d'eau glacée, les poids attachés aux testicules, les femmes emmenées la nuit pour être violées. Ahmed a été arrêté en 2015, accusé d'être sympathisant des rebelles indépendantistes du Front National de Libération de l'Ogaden, l'ONLF. Il est resté un an dans la prison centrale du régime d'Abdi Mohamed Omar, dit Abdiyileh. Dans cette belle maison de Jigjiga, quatre femmes nous attendent. Elles étaient de l'autre côté du miroir, de l'autre côté des murs de Jail Ogaden. Shim'at est la plus ancienne. Elle commence par égrener les noms des proches arrêtés. C'était il y a 9 ans environ. Raflée, selon elle, par l'armée éthiopienne et des milices locales dans l'extrême-est, tout près de la frontière somalienne.
Nous sommes partis à leur recherche pendant toutes ces années. Ça a duré 5, 6, 7 ou 8 ans. Parfois, on a su qu'ils étaient morts, mais la plupart manquent encore à l'appel aujourd'hui. Je dirais que 90% d'entre eux manquent. On ne sait pas où ils sont passés.
Il n'y avait généralement aucun procès digne de ce nom d'après Shim'at. Les prisonniers étaient d'abord emmenés dans la prison de district, puis de la zone, puis à Jailogaden. La jeune Fadé a passé des heures devant ses portes closes.
En réalité, tu ne vis pas vraiment, mais tu essaies de survivre. Tout ce qu'on attend, c'est de voir sa sortie ou d'apprendre sa mort et pouvoir l'enterrer. La mort est plus difficile parce qu'ils ne nous rendent pas la dépouille.
Comme beaucoup de proches, Fadé tentait d'obtenir des nouvelles. Elle a donné de l'argent sans jamais avoir accès à son père, son oncle, ses cousins. Elle a apporté de la nourriture, des vêtements, mais ont-ils été distribués ? Certains racontent que les gardiens continuaient d'accepter les dons pour les détenus décédés sans que les familles soient au courant. C'est lors de l'ouverture des portes de la prison qu'elles ont compris. Et pour ceux qui manquent à l'appel, Shim'at se fait peu d'illusions.
Il y a peu d'espoir de revoir des gens vivants. On ne sait pas à qui s'adresser. Les prisons sont vides. On essaie de contacter les anciens prisonniers, mais peu d'espoir. Ils sont probablement morts et enterrés depuis longtemps.
Shim'at, Fadé et leurs deux amis espèrent tout de même que les anciens policiers, les ex-gardiens, parleront un jour, même si leur proximité est difficile à admettre pour Fadé.
Certains ont pris la fuite, mais il y en a d'autres qui sont ici, et ça nous fait mal de les voir ici. Ce problème n'a pas encore été pris à Balkor.
Dans un autre quartier de Jijiga, la capitale de la région somalie d'Éthiopie, Abdisalam Cheikh Mohamed nous accueille. Nous sommes dans sa cour, il est entouré d'une partie de sa famille. Abdisalam est un ancien policier devenu avocat il y a 9 ans. Ses frères, sa sœur, sa mère, lui-même, tous ont été emprisonnés. L'un de ses jeunes frères est resté 8 ans derrière les barreaux. Il en est sorti vivant, mais malade mental. Abdisalam attend lui aussi la justice, mais pas dans la précipitation.
Il n'y a encore aucune poursuite de grande ampleur. Beaucoup de gens n'ont pas encore fait face à la justice. Beaucoup sont à Jijiga. Les investigations fédérales et régionales continuent pour collecter les preuves. Mais il faut aussi penser à la stabilité de la région, parce que ce gouvernement ressemblera aux anciens s'il met plein de gens en prison.
Le 6 août
2018, après 3 jours de chaos dans Jijiga et d'autres villes régionales, Abdi Il est arrêté par les forces fédérales. Elles le conduisent à Addis Abeba. Il est libéré, mais finalement envoyé en prison fin août, comme on l'entend sur ce reportage de la télévision publique ITV. Mi-janvier, il a été inculpé pour les violences d'août par le bureau du procureur fédéral avec 45 autres anciens ou actuels responsables. Mais rien pour le moment sur les 10 années de violations des droits humains qui ont précédé. Violations étroitement liées aux anciens tenants du pouvoir à Addis Abeba, ceux qui ont fait l'Éthiopie depuis 1991, les anciens maquisards du Front de libération du peuple du Tigray, la région nord. La région Somalie, elle, s'organise autour d'un système clanique. Les Ogaden sont les plus nombreux, Abdi Ille en fait partie, tout comme ses ennemis d'hier, les leaders du Front de libération de l'Ogaden, l'ONLF. La loyauté de clan ne freinera pas la recherche de la justice, selon Jouweria Ali. Elle prépare un doctorat en sciences politiques sur la région à Londres et vient pour la première fois sur les traces de ses ancêtres.
Il n'y a pas de loyauté de clan qui joue, je pense. Abdi Ille ou les gens qu'il commandait, les chefs de la Liu Police, martyrisaient des villages qui faisaient partie du même clan. Donc je ne pense pas que cette notion de justice clanique soit pertinente aujourd'hui.
Des familles sont d'ailleurs aujourd'hui déchirées, écartelées qu'elles ont été pendant des années entre un fils combattant de l'ONLF et un autre engagé dans la Liu Police. Il occupe le fauteuil symbole du martyr d'une partie des habitants de la région de Somalie d'Éthiopie. Depuis 6 mois, M. Mustapha Mohamed Omer, comme l'appelle ici le présentateur de la télévision publique nationale, est devenu M. le Président. Il parle le somali, l'anglais et l'amharique, comme on l'entend dans cet extrait d'interview sur ETV. Un peu comme Abiy Ahmed, le premier ministre parle afano oromo, anglais, amharique et tigrinya. Mustapha se veut réformiste, à l'image du chef du gouvernement fédéral, arrivé au pouvoir en avril 2018, 4 mois avant lui. Dans le palais présidentiel, sur les hauteurs de Jigjiga, le nouveau patron reçoit RFI. Ancien employé des Nations Unies, Mustapha Mohamed Omer a conscience des enjeux de la justice.
Les défis judiciaires auxquels nous faisons face sont de nature différente. Il y en a pour lesquels les lois sont là. Le problème, c'est simplement de les appliquer. Mais les déplacements forcés, les villages brûlés, les massacres, nous devrons trouver une manière de créer une commission vérité. Elle décidera quel cas doit être traité par la justice et quel cas doit être résolu à l'amiable.
Pour cela, il lui faut reconstruire une administration sans les fonctionnaires les plus impliqués dans les exactions passées et tenter de desserrer l'emprise fédérale historique sur la région stratégique.
Maintenant que nous avons le contrôle, la mise en œuvre rapide des réformes est notre prochaine tâche. Réformer ne veut pas forcément dire licencier les gens, en arrêter certains, poursuivre tout le monde. Réformer peut vouloir dire changer l'état d'esprit, faire à nouveau d'eux des membres productifs de la société, parce qu'ils font aussi partie de notre peuple après tout.
À 45 minutes de route de Jigjiga se trouve le camp de déplacés de Kolodji. Nichés au pied de collines, des tentes de fortune, selon les autorités, 100 000 personnes y vivent, réfugiées dans leur propre pays. Réfugiées pour cause de conflits à la frontière toute proche entre la région Somalie et sa voisine, l'Oromia. Aujourd'hui hébergé dans le camp de Kolodji, Mohamed a grandi de l'autre côté de cette frontière.
Quand on était là-bas, je ne sais pas, je pensais que j'étais Oromo, mais ensuite ils ont commencé à tuer les Somalis. Après ça, j'ai compris ce que j'étais, Somalie.
Abdi Fattah Mohamed est l'un des responsables de l'Agence régionale de gestion humanitaire et des catastrophes.
Ces populations ont émigré il y a près d'un siècle vers l'Oromia à cause des sécheresses et d'autres raisons. Et ils se sont mélangés avec les Oromos. Leur seule différence est l'ethnie, mais la culture, le mode de vie, la religion sont les mêmes.
Les conflits pour l'accès aux ressources, notamment les points d'eau, sont historiques. Mais d'après Abdi Fattah, ici, il s'agit surtout de politique. L'ancien pouvoir à dominante tigréenne à Addis Abeba aurait poussé son allié local somali à déclencher des violences communautaires. La Liou Police, milice personnelle d'Abdi Illeh, en aurait été le fer de lance. Elle aurait attaqué des villages oromo, selon des témoignages parus dans la presse, ce qui aurait déclenché un cycle de vengeance. Aujourd'hui, certains responsables somaliens accusent les nationalistes oromo d'avoir pris le relais de l'instigation des violences. Les déplacés internes, la sécurité de la région sont donc des défis pour le président Mustapha Mohamed Omer. L'ancien régime se vantait d'exceller dans ce dernier domaine de la sécurité.
Who was secure? Every household was terrified every night.
Qui était en sécurité? Chaque foyer était terrifié la nuit venue. La sécurité est un concept relatif. Si cela signifie mobiliser l'armée à la frontière et pourchasser les gens ici et là, oui, ils étaient très efficaces pour soulever beaucoup de poussière et donner l'impression d'être les seuls protecteurs capables d'arrêter les chebabs. Mais nous pouvons vous garantir que nous sommes beaucoup plus efficaces maintenant. La police spéciale est là, l'armée nationale est là, les communautés sont coopératives, elles sont heureuses. L'ensemble des problèmes politiques qui entraînaient cette insécurité sont réglés progressivement. C'est l'approche que nous avons choisie.
Parmi les causes profondes de l'insécurité, le sous-développement, malgré les richesses, le bétail, les cours d'eau et sans doute le pétrole et le gaz, mais tout reste à exploiter. Les membres de la nouvelle administration disent vouloir mieux partager les ressources, mais aussi les emplois. Selon eux, trop de travailleurs ont été amenés depuis les hauts plateaux. Ils plaident pour une forme de somalisation du marché du travail local. Tout cela dans un contexte politique nouveau où les indépendantistes de l'ONLF font leur retour après 24 ans de lutte armée. Ils ont signé la paix en octobre, leurs combattants sont dans des camps gouvernementaux, des négociations sont en cours pour savoir que faire d'eux. Quant au programme politique de l'organisation, il n'a pas changé selon le secrétaire du comité central de l'ONLF, Mohamed Sherif Omar.
Depuis que nous avons signé l'accord avec le gouvernement éthiopien, l'objectif de l'ONLF est clair. Nous voulons que les Somalis aient leur mot à dire quant à l'avenir de la région. Nous voulons qu'on leur demande ce qu'ils veulent exactement, qu'on leur pose la question, sont-ils satisfaits, où veulent-ils quitter l'Éthiopie ?
La région Somalie pourrait-elle alors se séparer de l'Éthiopie comme l'article 39 de la Constitution lui en donne la possibilité ? Le président Mustafa ne le croit pas.
Ça ne veut pas dire que notre peuple n'a pas le droit de choisir son destin. C'est mon opinion personnelle. Avec la situation sociale actuelle, faire sécession maintenant créerait une situation comparable à celle du Soudan du Sud. Nous n'en tirerions aucun bénéfice. Certains seront d'accord avec ça et d'autres non. Et ma responsabilité, ce n'est pas de plaire à tout le monde.
Au printemps 2020, les élections générales auront lieu dans le pays, même si beaucoup d'observateurs sont sceptiques sur la capacité à tenir le calendrier. En attendant, le vent de liberté qui souffle en région Somalie a attiré la diaspora. Elle vient pour lancer un commerce ou pour voir la famille, comme Abdullahi qui arrive de Suisse. Une partie de sa famille est de Djigdjiga. Lui a grandi à Mogadiscio avant d'obtenir l'asile en Suisse romande. Abdullahi ne parle pas amharique, il est un peu étranger à l'Éthiopie et ne compte pas s'y installer. Il porte un regard extérieur sur la relation entre Addis Abeba et sa région rebelle.
Cette région est colonisée, c'est quelque chose qui a existé et qui existe toujours, quoi, si vous voulez. Mais j'ai l'impression actuellement que les Somaliens d'ici, ils ont prêt quand même à faire des concessions. Maintenant, ce qu'ils revendiquent, c'est l'égalité en droit, en termes d'économie, des opportunités, bah, que cette région soit traitée comme le reste de l'Éthiopie. Il y a toujours une exception ici, quoi, par rapport au reste de l'Éthiopie. Souvent, c'est gouverné par les militaires. Il y a quelques mois, là, c'était fermé au monde. Du coup, on sent qu'on est un peu marginalisé, quoi. On est dominé, si vous voulez, alors qu'on est la troisième en nombre de peuples en Éthiopie et puis la deuxième en termes de superficie, quoi. Au niveau de ressources, on a pas mal, mais on ne nous laisse pas, même pas choisir nos dirigeants. Toujours, on est posé, quoi. C'est ça que les Somaliens d'ici n'arrivent pas à accepter, quoi.
Cette célèbre chanson somalie produite par l'ONLF est de nouveau à la mode à Djigdjiga. Elle évoque avec nostalgie chaque grande ville de la région, des villes somalies bien sûr, mais des villes comprises dans les frontières de l'Éthiopie et pas dans les frontières d'une hypothétique grande Somalie ou bien d'un Ogaden indépendant détaché de l'Éthiopie. Un acteur politique régional traduit, ce n'est pas le moment, on verra, qui sait, dans 20 ou 30 ans. En Éthiopie, les Somalis veulent leur part de révolution. Un grand reportage de Vincent Dublanche et Nathalie Tissot, mis en onde par Eva Piedel.